Bienvenue sur le nouveau podcast Boxe et Crime. Dans les derniers temps, j'ai écouté énormément de true crime, surtout à propos de crimes qui ont lieu ici au Québec. Parfois, dans le monde de la boxe, on a, nous aussi, nos
voyous
et même nos
criminels.
Pour trouver mes sources, c'est sûr que je me suis fié à plusieurs
médias d'information.
Donc, voici ton nouveau podcast Crime et Boxe, portant sur les pires criminels du monde de la boxe.
Alors, je déteste ça.
Claude, donne-moi une chance, j'ai même pas enregistré le premier épisode.
Je trouve ça désagréable.
Claude, essaie donc de l'écouter au moins une fois.
Ça m'intéresse pas.
Épisode 2 de ton programme préféré, Crime et Boxe, avec le criminaliste assez amateur, merci, Laurent Poulain, ça c'est moi. Là, juste vous dire que je sais que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de Crime et Boxe, mais c'est compliqué parce que j'fouille, j'écoute des podcasts, je lis des livres. Puis après ça, je me dis, bon, qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois synthétiser? Puis je suis complètement perdu. C'est là que je me rends compte que j'ai pas d'études universitaires. Je suis pas allé au cégep. J'écoutais pas au secondaire. Ça fait que j'ai vraiment aucune structure pour monter tout ça. Puis quand je suis en train de travailler, des fois, je pars aux fraises. Quand un matin, je suis en train de construire votre émission. Finalement, je me suis levé, je suis allé m'acheter un Sega Genesis avec le jeu Evander Holyfield. D'ailleurs, tout un lien, le boxeur que je vais vous parler aujourd'hui aurait dû affronter Evander Holyfield et tous les autres, okay, grands de ce monde. Je vais vous parler, allons droit au but, je vais vous parler de Ike, le président Ibeabuchi, qui est possiblement le talent le plus gâché de l'histoire de la boxe professionnelle. Tu sais, des histoires de talent gâché en boxe, il y en a une puis un autre. Ike Ibeabuchi, on est complètement à un autre niveau. Okay? Puis vous allez vous rendre compte de tout ça. En gros, talent gâché. Okay? Parce que, oh, c'est vrai, là, j'ai essayé de pas tout donner dans l'introduction. Là. Des fois, je fais des petites erreurs de tout donner. En gros, il a été surprotégé ou pas assez protégé par le monde autour de lui pour essayer de gagner les ceintures le plus vite possible avant que son cerveau craque. Okay? En gros, c'est ça l'histoire. Alors, commençons le récit de Ike Ibeabuchi. Pour vrai, je ne sais même pas si ça va durer 30 minutes ou 8 minutes, j'ai pas fait de répétition. Ça fait dur, mon affaire. N'ayons pas peur des mots. Mais pas que ça fait dur, c'est juste que ça manque de structure. Mais j'espère juste que ça va être divertissant pour les gens qui écoutent. C'est à peu près la seule chose qui m'intéresse. Moi, je veux vous divertir. Le reste, que ce soit structuré ou... c'est pas un travail universitaire, là, mais espérons que vous allez avoir du plaisir. Crime et Boxe. Saison 1, épisode 2, Ike Ibeabuchi, monsieur le président. Ike va naître, on peut dire ça, oui, le 2 février 1973. Son vrai nom, c'est Ike Mefula Charles Ibeabuchi. Sa mère, Patricia Ibeabuchi, est complètement crackpot. Ça va jouer un rôle dans l'histoire que je vais vous raconter. Donc, il va naître à Isuo, Nigeria. C'est un terrain qui appartient, c'est une ville qui appartient au gouvernement, il y a surtout des agriculteurs. Je n'ai pas trouvé grand-chose en googlant la ville de Isuoshi, bon, c'est ça, tu sais, au Nigeria. Il y a quelque chose, par exemple, que je voulais vous dire avec le Nigeria. Si tu vas au Nigeria et que tu bois de l'eau, tu risques de devenir un poids lourd dominant. Pourquoi? J'ai fait la liste, OK? Juste au Nigeria, là. Henri Akinwande, le boxeur préféré à moi et Nicolas L'Espérance quand on était jeunes, parce que Akinwande avait 88 pouces de portée. Il avait les bras les plus longs de l'histoire. Quand il s'étirait les bras, il pouvait avoir un bras dans la cuisine puis l'autre bras dans le salon. 88 pouces de portée. À l'époque, c'était pas mal lui qui avait les plus longs bras de l'histoire. Tu sais, il l'annonçait comme ça vers le ring. David lui, c'est un Nigérien. Okay. David Defiagbone, qui a gagné une médaille de bronze, si ma mémoire est bonne, ou d'argent avec le Canada, était né au Nigeria. Il avait sa citoyenneté canadienne. Duncan Dokiwari, Nigérien. Samuel Peter, l'ancien champion du monde qu'on a connu, contre Arslan Bek Makhmoudov, Nigérien. David Aizon, qui était sur le même podium que David Defiagbone, Nigérien. Olan Weiraju, du Rodola, Nigérien. Ike Ibeabuchi, que je vous parle aujourd'hui, je l'ai mis dans ma propre liste, c'est un Nigérien. C'est tous des poids lourds que je vous parle, parce que je pourrais vous parler de plein d'autres boxeurs, mais il y a quelque chose dans l'eau au Nigeria qui fait que tu peux créer des boxeurs poids lourds à volonté. Donne une tasse d'eau à quelqu'un là-bas, il devient un boxeur poids lourd classé. Anthony Joshua, le saviez-vous? Il est né au Nigeria, déménagé en Angleterre. Deontay Wilder, une grand-mère nigérienne. F. Ajagba, Nigérien. C'est épouvantable comment le Nigeria a produit d'excellents boxeurs poids lourds à répétition. Donc, c'était mon histoire du Nigeria. Et là, ce qui va se produire, c'est que Ike... je dirais, selon mes recherches, là, de 11 à 19 ans, il rêve de s'inscrire dans l'armée. Mais pourquoi dans l'armée, t'es valorisé, deux, t'as un gun, puis trois, t'as un emploi. Tu sais? Fait que là, Ike, lui, il se dit, bah, c'est parfait, ça, l'armée, ça va m'occuper. Puis, tu sais, j'ai l'âge pour aller dans l'armée. Moi, j'ai à peu près 18-19 ans. Tu sais? Et là, mon Ike, lui... À l'âge de 17 ans, plutôt, là, il va s'asseoir devant la télévision. On est en 1990 et il va regarder James Buster Douglas battre Mike Tyson. Puis dans sa tête, ce qui se met à tourner, c'est que, hey, un soir donné, n'importe qui peut battre n'importe qui. Ça n'existe pas quelqu'un d'invincible comme lui croyait que Mike Tyson l'était. Puis là, Ike, il se lève puis il s'en va se regarder dans le miroir. Puis il se dit, tabarouette, moi je mesure 6 pieds 2, je pèse 240 livres. Il est taillé au couteau. Puis Ike était reconnu pour avoir un cardio qui n'avait pas de sens. Il se fatiguait jamais. Fait qu'il se décide que ça lui tente de devenir boxeur. On est, si ma mémoire est bonne, on est en 90, il y a 17 ans. Là, il commence à s'entraîner, mais tu sais, avec les moyens du bord, là, il court dehors, puis il fait des push-ups, tu sais. Mais il aimerait ça devenir boxeur. Fait que mon Ike, il va s'inscrire à une coupe de compétition chez amateurs. Il va battre à deux reprises son partenaire, dont je viens de parler, OK? Duncan Dokiwari. C'est là qu'on va commencer à entendre parler de lui. Surtout que Donkey Wari, lui, va terminer troisième aux Olympiques de 1996. Entre-temps, après ça, Ike Ibeabuchi va émigrer à Dallas, aux États-Unis, avec sa mère, qui est complètement folle, Patricia, à suivre dans le reste de l'histoire. Et là, mon Ike, il va gagner les gants dorés au Texas en 1994. Il va rencontrer son entraîneur, Curtis Coke. Mais Ike, il disait, hey, moi, je vais aller chez Pro directement. Fait que l'autre, il se gratte la tête, puis il dit, mais tu vas aller chez les pros, on va aller chez les pros. Et là, mon Ike Ibeabuchi, il passe chez les professionnels. Okay? Puis là, tu sais, quand tu passes chez les professionnels, mais que tu n'as pas vraiment boxé amateur très longtemps, on se casse pas trop le basic. Au Expo Hall de Shreveport, on va opposer Ike Ibeabuchi à Ismaël Garcia. Une victoire en 3 minutes. Tu sais, c'est assez. Parce qu'on ne sera pas le basic. Hein? 3 minutes, c'est réglé. À son deuxième combat, là, écoutez bien, ça c'est quand même important. Il va battre Calvin Lemkin chez eux à Fort Worth, Texas. Okay? Ensuite, on y amène des croches. Là. Ron McGowan, 3-10. Keith Walton, 0-1. Rappelez-vous de Kevin Lemkin, 4 rondes. Il va avoir une revanche contre Calvin Lemkin où il va l'arrêter au deuxième. Fait que là, on se dit, hey, il progresse notre gars, tu sais. Ça va bien. On est en 95, là. Tout va bien. Tout va bien. On a notre prospect, il a 22 ans, il arrache des têtes, le cardio dans le plafond. Les gars commencent à s'intéresser à lui. Cédric Kouchner, il y a du monde autour de lui. Okay? Il va battre Gary Butler au premier, Mike Ackley au premier, Herman Delgado au quatrième. Ça tombe comme des mouches. On y amène Anthony Wade qui pèse 305 livres. Lui va faire la limite. Il va knocker Calvin Jones, 280. On y en amène de toutes les sortes. Des petits, des gros, des grands. Tout va bien. Il passe à travers les défis. Là, on est en 97. On décide... c'est pas lui qui décide. Là. Il y a une promotion qui s'appelle... Si ma mémoire est bonne, ça s'appelle Heavyweight Explosion. Puis ils font battre des poids lourds tout le temps. Okay? Et là, ils obtiennent un combat entre David Tua, qui à l'époque est 27-0. Il knock tout le monde. Puis on l'appelle le Mike Tyson. David Tua, ça. Mike Tyson de la Nouvelle-Zélande. Okay? De Auckland, Nouvelle-Zélande. Tua, là, il mesure 6 pieds. Il pèse 26 livres, ok. Il est bâti comme un autobus. Il est raide. Puis ça va bien ses affaires, ok. Mais là, tenez-vous bien. Là. Il va se faire battre assez facilement, même si les juges disent pas ça, par mon chum Ike Ibeabuchi, ok. Il va se lancer dans ce combat-là. Accrochez-vous après vos souliers. 1730 coups de poing. Le cardio de Ike Ibeabuchi, là, ça jette tout le monde à terre ce soir-là. Ils font comme, mais comment ce gars-là peut lancer autant de coups de poing? Le monde, là, ils comprennent rien. Là. Il bouge comme un poids moyen. Il frappe avec autorité. Il pèse 235 livres, puis on dirait qu'il a deux paires de poumons. Tout le monde capote. Le record va tenir 20 ans de temps. J'ai pris ça en note, ça, c'était juste pour vous faire plaisir. Le record va tenir 20 ans de temps. Et il va être battu, si je suis sur ma feuille, par Adam Konaki contre Chris Areola, qui vont se lancer 2140 coups de poing. Là, il n'est pas David Tua, OK? Il y a des histoires à pu finir, là. Mais pour vrai, vous allez pas rire parce que c'est pas vraiment drôle. Il va battre David Tua et ça commence à mal aller. Quand on lui loue des chambres d'hôtel, il y a plusieurs anecdotes qui arrivent entre David Tua, après David Tua, puis avant d'affronter. Après David Tua, il y a 3 autres combats dans sa carrière, OK? Puis, je vais essayer de placer ça dans le temps, là, parce que c'est compliqué un peu. Mais après David Tua, il va être chez eux, tranquille. Et le pauvre Ike Ibeabuchi, il reçoit son Ring Magazine, là, comme on le reçoit tous. Et il s'attend à être mieux classé que ça par la WBC, parce qu'il est maintenant champion WBC international. Tout le monde rêve d'un combat entre Tua et Tyson ou Tua et Lennox Lewis. Et quand il ouvre son Ring Magazine, il est classé légèrement loin. Là, comme il s'attend à être premier, puis un petit peu plus loin, je pense. Il pogne les nerfs, puis il embarque le fils de sa conjointe qui a juste 15 ans dans son char. il pèse sur le gaz, puis il conduit comme un sauvage, puis il aboutit d'un arbre où il essaye de se suicider, OK? Mais tout ce que ça a donné, c'est que le pauvre jeune de 15 ans, il a des traumatismes crâniens depuis 30 ans, puis il n'a jamais été capable de remarcher normalement. Tu sais, Ike a gâché la vie de l'enfant de sa fille, de l'enfant de sa blonde. Okay? Ça, c'est comme son premier crime en carrière. Il va faire 120 jours de prison, puis ça va coûter 400 000 piastres pour sortir de là. Là, on réussit à le sortir de là. Okay? Bon, ça, j'ai 8 pages quand même. Là. J'ai 8 pages juste sur cet événement-là. Et là, Ike, il va vraiment pas bien. Okay? Mais les gens autour de lui, comme ses promoteurs puis ses entraîneurs, ils sont obligés de jouer dans le jeu parce que ils sont obligés de jouer le jeu parce que Ike, il va pas bien. Mais eux, ils le laissent croire un peu à ses affaires. Il dit aux gens qu'il est président du Nigeria. Tu sais, il dit « Je suis le président du Nigeria ». Puis là, si tu réponds pas ce qu'il veut, mais il va pogner les nerfs. Fait que tout le monde est comme « Oui, monsieur Ibeabuchi, vous êtes le président du Nigeria. Tout va bien, monsieur le président. » Parce qu'ils veulent qu'il continue à s'entraîner parce qu'ils voient l'argent contre Lennox Lewis ou Mike Tyson. Fait que on se fout bien de ses problèmes mentaux. On veut collecter. Fait qu'on lui fait à croire qu'il est le président du monde. Et il va signer un deal de 3 combats avec le réseau HBO. Si ma mémoire est bonne, mais c'est surtout que je l'ai écrit. Là. Fait que là, ça va vraiment pas bien, OK? Il change d'entraîneur tout le temps parce qu'il est instable. Il y a un sparring partner qui va le couper en dessous de l'œil. Quand il va rejoindre le sparring partner, mais il va le rejoindre dans les casiers où ils sont en train de se rhabiller, le sparring partner, il a remis ses bagues. Il dit « Tu m'as coupé avec les bagues! » Fait qu'il lui sac un coup de pied, il va disloquer le genou à son sparring partner. T'sais. Fait que déjà là, il n'y a plus grand monde qui veut s'entraîner avec. Il va faire 2 combats qui n'ont pas vraiment rapport contre Tim Ray, qui va battre au premier, puis il va affronter Everton Davis, qui est un meilleur boxeur. Ça va finir au 9e. Okay? Avant d'aller sur Chris Bird, il est tellement instable, là, il faut l'appeler Monsieur le Président. On lui amène des offrandes comme s'il était un président dans sa chambre d'hôtel. Tout le monde embarque dans le jeu. Le gars, il n'est plus là pantoute. Il pense que l'air climatisé, c'est les démons qui lui parlent. D'ailleurs, à son premier procès, quand il a causé des lésions au jeune de 15 ans qu'il a kidnappé, il va dire qu'il entend des voix, puis qu'il n'est pas bien, puis qu'on lui demandait de se suicider. Puis là, c'est comme ça qu'il va sortir des accusations de meurtre en disant que c'est plutôt une tentative de suicide que une tentative de meurtre envers quelqu'un. T'sais. Puis là, c'est de même qu'il va pouvoir s'en sortir, puis qu'on va le ramener à la boxe rapidement. Mais avant, là, il obtient son méga combat contre Chris Bird. Ça va tellement mal, là. Quand il embarque dans les avions, là, il pense qu'un avion, c'est le mal. Puis imaginez, là, le gars pèse 6'2", 240 livres, il vient du Nigeria, il a un accent énorme, puis dans l'avion, il se met à crier pour pas rentrer. « C'est le diable, c'est le diable avec des ailes! » Puis il crie, puis il se débat. Puis c'est des gardes de sécurité qui le rentrent de force. Puis on l'attache ça après son banc pour qu'il puisse aller boxer pour collecter l'argent, tu sais. Ça va vraiment pas bien. Mais tout le monde embarque dans le stratagème, genre, pour pouvoir collecter. Genre. Puis ce qui est étrange, c'est que toute cette maladie mentale-là a jamais paru dans le ring. T'sais, dans le ring, il est discipliné, il fonce, fait ses affaires, il a plein de cardio. Fait que, étrangement, ça a toujours tenu la maladie mentale dans le ring. Ça, ils ont été chanceux. Mais t'sais, le gars pense que l'air climatisé, c'est le démon qui chuchote à l'oreille, que l'avion, c'est le diable avec des ailes. T'sais, ça va pas super bien. Là, il va affronter Chris Bird. Éventuel champion. Chris Bird, il est 26-0. Okay? Il démolit Chris Bird au 5e round. La même soirée que Kirk Johnson, ça, c'est même, ça c'était un heavyweight explosion avec Cédric Kochner. Il y a Chris Bird qui se fait démolir par Ike Ibeabuchi. Il y a Kirk Johnson qui va battre Alfred Cole. Il y a aussi David Defiakbon qui va affronter Terry Verners, okay, sur la même carte. On amène bien des poids lourds. Ibeabuchi, là, il démolit Chris Bird. Là, il est aspirant numéro 1 à Lennox Lewis. Il rêve de Mike Tyson pour faire de l'argent. Tout le monde pense qu'ils vont devenir millionnaires. Okay? Quelques jours après, ils vont inviter notre bon ami. Là, HBO est là, ok, pour faire un méga, ça vous allez trouver ça drôle, mais c'est pas super drôle. HBO est là pour faire un grand contrat. Parce que là, il est aspirant numéro 1 à tout le monde. HBO veut le signer. Il vient de démolir Chris Bird. Tu sais, sa valeur a jamais été aussi élevée. Fait que il est assis dans. Il l'amène dans le plus beau restaurant de New York. Okay? Imaginez là, le plus beau restaurant de New York. Un Nigérien qui casse le français, l'anglais de 6 pieds 2, 2,45. Il est assis au restaurant, puis il crie. Il prend le couteau à steak, là, le plus gros. Il se lève. Il plante le couteau bord en bord à la table, puis il crie « Tous ces gens-là devraient être à genoux devant le président du monde. » Là, c'est même plus le président du Nigeria, c'est le président du monde. « Ils devraient venir me remettre les ceintures poids lourds. » Ils ne veulent pas m'affronter, c'est une chose, mais ils devraient me remettre les ceintures. Les ceintures devraient m'être données. Puis il crie dans le restaurant, et ça commence à faire beaucoup. Là. Il pense que l'air climatisé lui chuchote à l'oreille. « OK. » Là, après ça, il a peur de monter dans les avions. Il plante un couteau bord en bord à la table, kidnappe son propre fils. Et tout ça, c'est pardonné. Puis on ne lui donne pas vraiment de soins. Parce que quand il arrive, on fait faire des tests sur son cerveau. Puis on trouve absolument rien. Ça fait que Ike, il dit, si vous trouvez rien, c'est pas la boxe qui m'a causé des lésions à mon cerveau. C'est que... j'entends des vraies voix, je suis possédé par des vrais esprits. Lui, il croit ça. Fait qu'il se met à avoir peur d'à peu près tout. Et un jour, il est dans une chambre d'hôtel et il décide de se payer une escorte. La fille va dire que c'était une stripteaseuse et que c'était simplement payer un spectacle de danse érotique. Lui va dire que c'était une escorte. Donc, il va essayer de lui faire comme des avances. Elle va les refuser. Il va l'enfermer dans la salle de bain. Puis Ike a déjà été poursuivi deux fois pour des attaques sexuelles, mais que j'arrive pas à trouver les... C'est pas documenté, mais c'est écrit là, quand tu regardes. Fait que c'est comme une autre offense. Fait qu'il se ramasse avec 20-25 ans de prison. Fait qu'on perd notre Ike complètement. Là, Ike... il est en prison à cause de cette histoire-là. Il n'arrive pas à convaincre le juge qu'il est fou braque. Fait que mon Ike se ramasse en prison. Et là, tenez-vous bien. Là. C'est ça l'affaire qui n'a pas de sens. Là. C'est que quand il sort de prison, 24 ans plus tard, on attend un combat. Pacquiao est supposé se battre dans les prochaines semaines. Mais là, il sort de prison. Il y a une limousine de Top Rank qui attend Ike Ibeabuchi. Mais l'affaire, là, c'est que Ike, en prison, il n'a jamais arrêté de s'entraîner. Push-up, course à pied, bench press. Il faisait un genre de jumping jack modifié qui le gardait en superbe condition physique. Il sort de prison. Il a trois bacs universitaires qu'il a étudiés en prison. Un en finance, un en administration, puis... un autre, je me souviens plus, OK? Il est taillé au couteau. Il est en shape. Et là, il dit, moi, je suis encore au sommet, OK? Je me suis entraîné. Et on organise un combat, et je crois que ça a même été sur le bord d'être signé, là, vous allez tomber à terre, entre l'aspirant numéro 8 à la WBO, Andy Ruiz Jr., et... Ike Ibeabuchi. Et là, tous les gens comme moi, là, on condamne ce qu'il a fait, mais il était fou. Puis là, on se dit, incroyable, il est allé chercher 3 degrés universitaires, il est taillé au couteau, puis il va affronter Andy Ruiz à 48 ans. c'est le retour de Monsieur le Président. Puis là, moi, je chante l'hymne national nigérien dans mon salon, puis je vais fou. Là, mais finalement, il se fait réarrêter au Texas pour une histoire qui ne respecte pas une probation. J'ai pas trop compris. Il ressort de prison à 50 ans, mais en voulez-vous une bonne? Il est encore plus musclé puis taillé au couteau quand il est sorti à 48. Fait que là, le buzz reprend, on veut leur faire boxer. Finalement, je comprends pas trop ce qui se passe. Il s'en retourne au Nigeria pour voir sa famille. Puis il se ramasse dans une cellule, puis ils n'ont pas les papiers pour le faire sortir. Fait qu'aujourd'hui, en janvier 2024, ben, Ike Ibeabuchi est rendu à 51 ans. Il est taillé au couteau. Il rêve de faire un retour en s'inspirant de George Foreman, qui est devenu champion à 45. Mais qu'à 48, il avait voulu faire un retour. Foreman, ça n'avait pas fonctionné. Lui, il pense, Ibeabuchi pense qu'il peut toujours revenir. Il a donné ses premières entrevues dans les dernières semaines. Il est enfermé d'une prison là-bas, au Nigeria. Et quand il était, justement, quand il était en prison à ses débuts aux États-Unis, il disait que c'était un complot international, lui qui était le président du Nigeria. Puis sa mère embarquait là-dedans pour l'encourager. C'est pour ça qu'elle n'était pas fine-fine, sa mère. Mais là, présentement, c'est drôle parce qu'il donne des entrevues, puis il est en shape, mais qu'une vieille face. Puis il s'est instruit beaucoup en prison. Fait que son discours fait du sens. Il explique tous les papiers d'immigration qu'il essaye de remplir. Il explique qu'il veut encore boxer. Mais on parle du talent le plus gâché. T'sais. On parle d'un gars de 6 pieds 2, 240 livres, qui bougeait comme un poids moyen, qui frappait à deux mains, qui était malin parce que oui, tu sais, il était fou entre les deux oreilles, fait que c'était pas vraiment le gars qui reculait ou rien. Il avait un cardio d'enfer. Bat David Toa, bat Chris Bird qui était respectivement 27 et 26-0. Personne lui a offert de l'aide. À la limite, le petit gars de 15 ans qui s'est fait démolir une jambe, il devrait porter plainte contre les promoteurs puis contre tout le monde qui a. Il y a comme toute une histoire, si on y pense bien, du boxeur africain qui vient ici en Amérique du Nord, qui peut battre tout le monde, qu'on se rend compte qu'il est complètement crackpot, puis on refuse de lui donner de l'aide sous prétexte qu'on veut collecter la dernière scène avec lui. Puis je vous parle de personnes autour de lui qui étaient déjà millionnaires, qui voulaient juste rajouter des dollars, comme Picsou qui nage dans sa baignoire de huard. Fait que, une histoire triste où personne n'y a offert de l'aide. Tout le monde a voulu profiter de lui. Lui, il était juste comme, il était rendu fou dans sa tête. Un talent complètement gâché d'un gars qui aurait pu possiblement battre Lennox Lewis à cette époque-là, battre Mike Tyson, battre Evander Holyfield ou donner des combats classiques avec eux. Ike, le président Ibeabuchi, est-ce qu'on va le voir dans le ring maintenant à un âge trop âgé? Je ne le sais pas. C'est ce qu'il essaie de faire présentement. Donc, c'était ton histoire de crime et boxe. J'espère que c'était intéressant. Ça doit. Il y a un livre qui a été écrit, il est disponible chez Rival Boxing, Ross Amber importe ce genre de livre-là pour qu'on puisse les acheter. C'est Luke G. William qui a écrit President of Pandemonium, The Mad World of Ike Ibeabuchi. Vous voyez que je suis parfaitement anglophone. Sinon, il y a beaucoup de podcasts qui sont intéressés à son histoire. Allez voir sur YouTube, il y a une entrevue qui est sortie en janvier 2024 avec lui. Donc, c'était l'histoire du talent gaspillé de Ike Ibeabuchi.
C'est occupé, j'ai des masques, le fameux masque 195, et il faut faire attention.